mercredi passé, on est parti au Mexique d'une façon un peu étrange. On a commencé avec les Aztèques, on a essayé de définir toute la formulation précolombienne pour comprendre le sacrifice humain, la mort. On n'a pas vraiment parlé de l'au-delà, mais ça on pourrait peut-être le faire à l'occasion. Mais il y a quand même une chose qui intrigue d'abord chez nous, c'est de savoir pourquoi le Mexique est différent, et puis surtout comment est-ce qu'on peut vivre 3 semaines, 1 mois, dans un pays comme celui-là, ou si par exemple on ne parle pas espagnol, si on parle anglais, est-ce qu'on peut facilement entrer en contact avec une population qui est très diversifiée, parce que je crois que c'est ça qui est intéressant au Mexique. Il n'y a pas un Mexique, il y a des dizaines et des dizaines de Mexiques. D'abord on y parle des dizaines de langues, on y parle l'espagnol partout, c'est vrai, mais c'est un pays qui a encore des origines indigènes très fortes et qui a des différences énormes entre le nord, quand on pense maintenant à ce qui touche la Basse-Californie, les États du Nord, le Chihuahua, ce qui touche les États-Unis, le Rio Colorado et tout ça, l'image type qu'on se fait chez nous, c'est le cactus, le désert absolu, ça c'est un Mexique que très peu d'Européens d'ailleurs visitent. C'est très beau, ça ressemble énormément au plus beau des paysages des États-Unis. Et puis, il y a dans cette région-là, la Barranca del Cobre, qui est une région qui ressemble un peu au Rio Colorado. Alors ça, je dis que c'est l'image type parce qu'il y a des ranchs fantastiques, il y a des surfaces agricoles incroyables, des lieux cultivés qui sont assez semblables, je le rappelle, qui sont semblables à ceux des États-Unis. Et il y a surtout le Mexicain stéréotypé avec son chapeau de cow-boy et son cheval. Ça c'est le nord. Et puis vous avez la partie centrale qui, au contraire, est une partie totalement différente. C'est le berceau de l'indépendance, c'est le berceau de la colonie. Alors là, on retrouvera plutôt de grandes villes comme Guadalajara, on va retrouver Querétaro, San Miguel de Allende, beaucoup plus bas, Taxco, le lac de Pátzcuaro. Ce sont des mots, mais ils sont connus, ce sont des noms qui évoquent quelque chose. En fait, ce qu'ils évoquent d'abord, c'est une église, un côté baroque, des palais, une construction de type espagnol. Alors ça se trouve aussi, on parlait plutôt de l'ouest et du nord maintenant, ça se trouve aussi du côté est, on peut aller jusqu'à Puebla, qui est la ville peut-être la plus hispanique de tout le Mexique. Alors ça, c'est un morceau d'Espagne déposé sur les hauts plateaux mexicains, avec autour des régions très agricoles aussi, qui ressemblent aux meilleurs endroits de l'Europe chaude, avec en plus un ou deux cônes volcaniques qui viennent agrémenter tout cela, des sommets à 5-6 000 mètres. Alors ça, c'est un Mexique où les gens sont sympathiques, où on a un contact assez facile, où on se retrouve déjà sur le plan racial avec un mélange beaucoup plus marqué. Et on a perdu les grands blonds du Nord, des personnes qui font 1m80, qui ressemblent plus à des Français ou à des Espagnols. Là, on retrouve déjà des personnes plus petites, mélangées, un côté métissé, quelques peuplades indigènes, des fêtes indiennes déjà, mais également le côté très industrieux. Et puis la capitale, c'est des unions d'habitants qui viennent fixer tout à coup le centre du pays autour d'un réseau routier important, d'un réseau ferroviaire aussi qui monte jusqu'aux États-Unis, qui descend jusqu'à la côte de Veracruz. N'oubliez pas que la ville de Mexico est à peu près à 2300 mètres d'altitude. Et quand on continue à descendre, bon, même si on ne connaît pas vraiment le Mexique, on sait que tout à coup il y a un goulet, que tout cela se resserre petit à petit. Et sans arrêt, on a involontairement suivi la Sierra Madre qui, elle, vient carrément du côté californien, c'est-à-dire qui vient des États-Unis et qui descend depuis le Colorado, grosso modo, et qui descend ainsi tout au long de l'échine mexicaine. Alors ça, c'est le point qui s'est resserré le plus, et c'est le fameux détroit de Tehuantepec. Alors, en dessus de Tehuantepec, on est toujours dans l'état de Oaxaca. On dira plutôt Oaxaca si on est d'ici, mais enfin, il y a certains X qui se prononcent R, il y en a d'autres qui se prononcent CH, comme Mexico. Et à Oaxaca, c'est de la région la plus indienne du pays. Alors là, il y a 7 provinces avec énormément de coutumes différentes qui se retrouvent autour de cette ville coloniale extrêmement douce, extrêmement reposante, qui était la plus belle vallée du Mexique, celle qui était offerte au marquis de Oaxaca, c'est-à-dire Cortés lui-même qui avait reçu ce morceau de terrain opulent comme cadeau, plutôt comme hochet à la fin de son fantastique périple et de sa conquête. C'était la dernière chose qu'il a reçue en héritage et qu'il a d'ailleurs refusé. Cette région de Oaxaca, C'est peut-être une des plus connues du tourisme. Et puis quand on descend plus bas, alors là, on arrive tout près de la frontière du Guatemala. C'est déjà le Guatemala. C'était en tout cas le royaume de Guatemala. Ce sont les états du Tabasco, le Chiapas surtout. Là, on est à plus de 2000 mètres. Où là, il y a 900 000 indigènes, une fois de plus. Des costumes très divers, des fêtes très étranges. Et quand on descend du côté Tabasco, on retouche le golfe du Mexique, donc on est de nouveau du côté atlantique. Et là, il y a de la jungle qui a été découpée petit à petit, qui a été arasée. On retrouve des troupeaux de vaches dans de l'herbe qui fait 1 mètre, 1,50 m. Là, je plaisante à peine. Et on a vraiment cette impression de tropique retravaillée, revue et corrigée par notre maison Nestlé. Et c'est une région très riche, bien sûr. Et là, on vient de pénétrer dans un nouveau territoire, celui des Olmecs d'abord, les ancêtres de tout le Mexique, et ensuite on glisse sur le Yucatan, à la fin des Chiapas, sur les Mayas. Alors les Mayas, c'est encore une civilisation supplémentaire, il y en a tout plein. Au Mexique, on pourrait parler d'une dizaine de civilisations. Alors ça, c'est une région que les gens aiment beaucoup visiter, parce qu'il y a à la fois des ruines, très impressionnantes, et il y a surtout un peuple, celui des Mayas, qui est un peuple très doux et très communicatif. Ben voilà, on a déjà fait un petit peu le tour du Mexique, géographiquement parlant. Je crois qu'on pourra en parler maintenant touristiquement parlant. C'est vrai que quand on pense Cancun, Acapulco, enfin, il y a plein d'images comme ça qu'on pourrait quand même évoquer.
Voy a cantar corrido, sin agravio y sin disgusto. Lo que sucedió en Tres Palos, municipio de Acapulco, mataron a Simón Blanco. Más grande fue su resulta. Su mamá se lo decía, Simón, no vayas al baile. Y Simón le contestó, mamá, no seas tan cobarde, ¿para qué cuidarse tanto? De una vez lo que sea tarde. Cuando Simón llegó al baile, se dirigió a la reunión. Toditos le saludaron como era hombre de honor. Se dijeron los martínez, cayó en las redes el león. Dio principio a la cuestión cuando con pistola en mano Andrés Bailón lo casó Onésimo su compadre vilmente lo asesinó a los primeros balazos Simón habló con violencia. Andrés, dame mi pistola. ¿No ves que esa es mi defensa? Quiso casar a Martínez. Le falló la resistencia. Como a los tres días de muerte Los Martínez fallecieron, decían en su novenario que eso encerraba un misterio, porque el matar a un compadre era ofender al eterno y matar a Simón Blanco. Que era un gallito de traba, era un gallito muy fino, que el gobierno respetaba, él con su 30 en la mano, Simón Blanco se llama.
Quand on veut, et on le fait tous, bien visiter un pays, on choisit quand même des escales type. Alors, il y a plusieurs voyages type pour découvrir le Mexique. Et les vols depuis l'Europe sont très pratiques, c'est vrai. En principe, on fait une petite escale aux États-Unis, à Houston, ou à Miami, ou à New York, qui n'est pas la meilleure d'ailleurs, parce qu'elle est la plus longue. Et ensuite, on se laisse glisser sur ce Mexique. Alors, on survole d'abord toute la partie du Golfe. Et ce qui est vraiment impressionnant, je crois que ça reste dans le souvenir de tous les voyageurs, c'est, si on a la chance de prendre le vol adéquat, c'est d'arriver au début de la soirée, ou dans la nuit en tout cas, et d'arriver par ce nord-ouest de Mexico. Alors c'est assez étrange parce que même sans rien connaître de Mexico, on se rend compte qu'on est dans une ville exceptionnelle. Mexico, pour un Suisse, ce serait le bassin lémanique entier habité, grosso modo. C'est une ville de 80 km de diamètre qui déborde à 120 et 140 km lorsqu'on sort de la cuvette. Donc c'est comme si le bassin lémanique était un peu plus rond, si vous voulez, et qu'il soit entièrement plat comme le lac, un lac asséché, un lac qui avait 1 mètre, 1,50 mètre de profondeur, et qu'il y ait une partie, si on est au nord-ouest, qui soit restée un peu désert, demi-ensemble avec de l'eau et du sel, car on exploite encore certaines salines dans cette partie-là. C'est vrai que si on arrive ou qu'on décolle de jour, on voit ces immenses colimaçons de couleur vert pâle avec du bleu et qui est travaillé pour évaporer l'eau jusqu'à ce qu'on obtienne le sel. Et là, on arrive sur cette tache noire, très étrange, entourée de lumière. Et vous avez ces lumières de 18 millions d'habitants. Donc c'est un des plus beaux atterrissages que l'on puisse faire au monde, c'est se retrouver devant cette mer de lumière. Parce qu'à Mexico, à part les quelques exceptions, la Tour América Latina avec 42 étages, eh bien, toutes les maisons n'ont qu'un ou deux étages. Donc une superficie absolument inondée de lumière et qui déborde, comme je l'ai dit, sur les collines environnantes. Et on sent qu'on est vraiment dans une cuvette. Et on sent aussi la présence, même dans le noir, de ces volcans qui, eux, montent à plus de 4000, 5000 mètres aux alentours. Alors ça, c'est quelque chose d'assez incroyable, parce que comme on arrive en même temps en pleine ville, et si vous avez la chance d'avoir un courant contraire, vous allez au contraire survoler toute la ville de Mexico et faire une boucle de pratiquement 100 km sans jamais n'avoir eu autre chose que de la lumière, des autoroutes et des millions d'habitations. Parce que là, ce sont des millions d'habitations. Et on se pose carrément au cœur de la ville de Mexico. Thank you. premier contact qu'on peut avoir avec une capitale. Il ne faut pas oublier que Mexico, c'est après tout la ville la plus peuplée du monde. Alors, il y a des quartiers qu'on ne visitera jamais, c'est sûr, qui sont d'ailleurs coupés pratiquement du reste de la ville et qui appartiennent à leurs propres habitants. Il y a deux zones de Mexico que les touristes ne visitent pratiquement jamais. Je sais pas, je prends l'exemple de Nezahualcóyotl. C'est un très beau nom puisque c'est le nom d'un des tout grands poètes aztèques. Bon, les sportifs le connaissent un peu parce qu'en fait, il y a eu au cours des fameux jeux de mondiaux de football plusieurs rencontres sur le grand stade de Nezahualcóyotl. Mais Nezahualcóyotl, c'est un endroit que j'ai connu avec 2 millions d'habitants. Il y en a 4 ou 5 maintenant. C'est une ville dans la ville qui a été au départ un fantastique bidonville. Ça, c'est du côté sec, c'est du côté désert, c'est du côté est. Et puis quand vous allez du côté ouest, vous avez cette montée subtile où vous avez des maisons superbes, des quartiers riches. Donc vous voyez, rien que par ces deux aspects, on comprend que cette cuvette est remplie d'un puzzle assez curieusement façonné. Le pire de tout, c'est vrai, c'est que l'industrie est au nord, tous les courants viennent du nord, toute la pollution vient du nord, et qu'elle arrose gentiment toute la ville, ce qui en fait une des plus incroyables du monde sur ce plan-là. Et qu'au contraire, les quartiers sympathiques se sont plutôt sur le sud ou sur l'ouest. On aurait peut-être mieux dû faire l'inverse. Mais ça, c'est une histoire bien mexicaine aussi. Et la première chose qu'on a envie de visiter à Mexico, bon, c'est le centre, bien sûr. C'est le cœur dont on a parlé lors de la dernière émission, c'est-à-dire ce nouveau Templo Mayor, où on vient de créer un musée avec 7000 pièces archéologiques, qui sont simplement le résumé de ces quelques coffres-forts qu'on a découverts comme fondation des différents temples. Et qui nous fournissent toutes les légendes et toutes les formulations du sacrifice humain dont on a parlé la dernière fois. Et puis, il y a bien sûr le musée d'anthropologie, qui reste peut-être un des édifices architecturaux les plus incroyables du pays. Bien que Jalapa est en train de lui faire la concurrence, c'est un autre musée qu'on vient de construire sur le côté ouest. Et j'en parle parce que personne n'y va et je crois que ça vaudrait le détour. En tout cas, que les touristes nouvellement arrivés au Mexique sachent que la côte, cette côte est et ce côté est cachent des merveilles. Je crois que j'ai dit que Jalapa était à l'ouest, c'était à l'est en fait. Hein. Et le musée d'anthropologie, bon, c'est un endroit que tout le monde doit visiter parce que il est rare qu'on puisse retrouver comme ça une dizaine de cultures dans 10 salles différentes, bien aménagées. Juste un exemple, le calendrier aztèque, tout le monde le connaît, mais personne ne sait qu'on pourra jamais le ressortir de la salle dans laquelle il est. C'est pour ça que c'est une architecture fabuleuse. Le musée d'anthropologie, en 1964, on s'est donné quelques mois pour construire un des plus grands bâtiments du monde sur le plan muséographique. On s'est trouvé à l'intérieur d'un parc avec des arbres superbes, on a créé une maquette en bois, on a détruit le moins possible d'arbres, on a fait une architecture très proche de l'idée précolombienne avec l'influence de l'ombre et de la lumière mise en valeur, on a créé ce parapluie extraordinaire au centre qui ne touche aucun bâtiment qui l'entoure et qui récolte toutes les eaux de pluie et de manière artificielle, on le fait couler, on le fait fonctionner puisque le tronc central, l'axis mundi, reçoit toute l'eau de cette fantastique surface presque carrée. Donc ça c'est le toit central, c'est la cour centrale et autour vous avez toutes ces salles qui courent et le calendrier aztèque auquel je me référais tout à l'heure, eh bien, on ne pourra plus le sortir de la salle parce qu'on l'a posé dans la salle avant de construire la salle. Donc ces 24 tonnes, elles sont bloquées à l'intérieur de la salle aztèque et la salle elle-même a des dimensions absolument fantastiques. Les grandes têtes olmèques par exemple qui font 2,60 m de haut, on les a posées sur le sol même et ensuite on a mis le carrelage, ensuite on a fait les murs et ensuite on a mis le toit. Ça c'est la création des années 60 la plus époustouflante du Mexique. Regálame tus amores, chinita del alma mía. Y esto te digo porque te quiero, china del alma, yo por ti lloro. Y esto te digo porque te adoro, china del alma, yo por ti lloro. A la leva, 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 y a la leva, leva iré. Y si no voy a la leva, de cobarde pasaré.
Por el río camaroneando, ya me encontré a una indita.
Y de verla tan solita, ya hasta me la fui llevando. Debajo de una sombrita, porque se estaba soleando.
Y esto te digo, porque te quiero, china del alma, yo por ti lloro. Y esto te digo, porque te adoro, china del alma, yo por ti lloro.
A la leva, 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 y a la leva, leva iré. Y si no voy a la leva, de cobarde pasaré.
Thank you.
cierto día se asomaba en su ventana, se asomaba en su ventana una invita cierto día.
Y el invito le decía que fresca está la mañana, que fresca está la mañana, invita del alma mía.
Y esto te digo porque te quiero, china del alma, yo por ti lloro. Y esto te digo porque te adoro, china del alma, yo por ti lloro.
A la leva, 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 y a la leva, leva iré. Y si no voy a la leva, de cobarde pasaré.
Pour un touriste qui a envie d'avoir des évocations supplémentaires pour une telle capitale, bon, d'abord il pourra aller dans le centre, nous l'avons dit, il aura visité ce musée d'anthropologie, il ira peut-être voir aussi la place des Trois Cultures. C'est une place qui a beaucoup souffert lors du dernier tremblement de terre, c'est là où est morte la famille par exemple de Placido Domingo, c'était normalement un centre de HLM également, même année d'ailleurs, 64. Et qui a été conçue d'une façon assez curieuse, cette place. Elle a été conçue sur les ruines de Tlatelolco, qui était le deuxième axe précolombien du lac, donc une sorte d'îlot qui était relié à la capitale centrale, et qui était le marché. Simplement pour vous donner une idée, comme quoi, quand Cortés est arrivé, c'était peut-être déjà la plus grande ville du monde. Il y avait 60 000 personnes uniquement pour le marché qui étaient présentes lors des ventes importantes. Et autour de ces restes précolombiens, on a conservé une petite église qui est le premier couvent franciscain, ou plus exactement le premier collège que les franciscains ont installé au Mexique. Donc un collège où on a reçu, où on a appris toute l'histoire des Aztèques, parce que les franciscains ont été très ethnographes et ils ont demandé beaucoup de renseignements pour pouvoir enseigner le christianisme. Ils ont demandé aux Indiens de raconter leur mythologie et leur légende. Et puis autour, on a mis les bâtiments de 1964, on a mis des bâtiments modernes, on a mis la tour qui permet aux personnes qui veulent sortir du Mexique, d'aller chercher leur passeport pour l'immigration. Enfin, il y a tout un côté gouvernemental et des bâtiments ultramodernes qui ont été conçus autour de ce cadre comme ça, qui ont en fait entouré, c'est pour cela qu'on l'appelle d'ailleurs la place des Trois Cultures, hein, précolombienne, hispanique et contemporaine. Ça, c'est une chose que les gens aiment connaître parce que plusieurs évocations, il y a eu les massacres de Tlatelolco, il y a eu cette construction, il y a eu le tremblement de terre récent. C'est peut-être la place qui évoque le mieux l'histoire contemporaine en même temps du Mexique. Il y a le sud avec l'université, il y a Xochimilco avec ses fameux jardins flottants qui ressemblent à ce que était l'agriculture sur cette lagune très très douce et très basse. L'idée aztèque c'était d'ancrer dans le sol des radeaux qui étaient petit à petit remplis de terre et là-dessus de pouvoir faire une horticulture, des cultures maraîchères importantes avec simplement des canaux entre deux et puis des pirogues qui venaient chercher les produits et qui traversaient le lac pour les vendre. Il y avait des millions d'habitants autour de cette immense lagune de 80 km qui a disparu seulement en fait au XVIIIe siècle lorsque les jésuites ont fait des tunnels sous la montagne pour vider l'eau de Mexico. Alors c'est le drame un peu actuel quand vous pensez que cette ville de 18 millions d'habitants aujourd'hui va chercher son eau potable à 250, 270 kilomètres de la capitale. Parce qu'il n'y a plus d'eau dans cette nappe phréatique. L'éponge est vide, et non seulement elle est vide, mais il faudrait même pouvoir réinsuffler de l'eau pour empêcher qu'elle soit trop vide et que les bâtiments continuent à s'enfoncer et qu'en cas de tremblement de terre, on l'a vu, il y ait de tels drames. Parce que c'est aussi dû au changement de la couche phréatique de Mexico.
Thank you. los bosques en una palma, flor de los cielos en una estrella, flor de mi vida, flor de mi alma, murió de pronto mi flor querida.
Par cette introduction de la capitale, on se rend compte qu'elle elle a pratiquement toutes les richesses du pays et que ça vaut la peine d'y passer quelques heures, quelques jours, même si de temps en temps on a les yeux qui brûlent un peu et que si on est un peu courageux, prendre le métro, c'est pas toujours évident. 6 millions d'habitants par jour qui prennent un métro de 200 et quelques kilomètres, ça signifie qu'à 6 heures du soir, près du Zocalo, c'est toujours le centre, hein, c'est toujours la place centrale dans n'importe quelle ville du Mexique. Ça veut dire le socle, hein. C'est un socle qui n'a jamais été habité, enfin qui a jamais été habité dans la mesure où on n'a jamais mis une statue qui manquait. Eh bien, dans ces stations centrales, il y a des millions de personnes par jour et on doit même séparer les hommes des femmes, hein, selon le métro. Enfin, partons peut-être du Mexique, enfin de Mexico. Je crois que la première chose que les gens auraient envie de visiter tout près, c'est Teotihuacan. Alors Teotihuacan, c'est le site archéologique par excellence. On est à 40 km de la ville, c'est pas très loin. On monte un peu du côté nord-nord-est. Et à l'horizon, tout à coup, on voit se profiler un petit million de mètres cubes de terre et de rochers. C'est bien sûr la pyramide du Soleil, avec sa voisine, qu'on voit un peu plus loin, en arrière, sur le profilé contre l'ombre de la colline. C'est celle de la Lune. Et 3 et quelques kilomètres de voie des morts, comme on l'appelait, une sorte de voie royale qui relie les deux axes, qui relie l'ensemble de ce centre cérémoniel. Et qui en fait la ville orthogonale la plus parfaite, une ville piétonne absolue, avec la citadelle qui fait 400 mètres de côté. Quand on pénètre à l'intérieur, on monte un escalier, on se retrouve sur une plateforme et hop, on redescend de l'autre côté et tout disparaît. Ça, c'est la magie de l'architecture précolombienne, c'est de voir qu'avec simplement un escalier, une plateforme, un autre escalier derrière, sans aucune rampe, eh bien, dans 400 mètres de côté, on peut faire disparaître 1 million de mètres cubes de terre, qui effectivement n'est plus qu'une petite chose posée en décoration sur le bord de la citadelle. Et quand on remonte la voie, on se rend compte que tous ces niveaux continuent à fonctionner. C'est-à-dire que le précolombien a créé un culte en plein air, avec la magie du soleil, bien sûr, ce mouvement astral qui a marqué même l'architecture de cette ville, parce que ça ressemble presque à une ville, il y a 32 kilomètres carrés. Mais ça, je crois qu'il faut passer une bonne journée à Teotihuacan, et essayer de s'inspirer de ces pierres qui, déposées de manière extrêmement sobre, vont créer tout le départ de la magie architecturale. Puis on rejoint ces idées cosmiques et assez curieuses qu'on a déjà tenté d'évoquer à d'autres occasions. Teotihuacan, c'est une visite obligatoire, pour autant que ce soit un peu expliqué. Ça demande peut-être quelques explications, parce que c'est un lieu qui a été fouillé au début du siècle et qui a perdu toute sa couleur. On a trouvé quelques fresques, mais il faut une part de rêve et d'imagination pour le voir tout en rouge et structuré tel qu'il l'était entre le début de notre ère et l'année du dernier incendie, aux alentours des 600-650 de notre ère. Là, ça devient plus difficile parce que quand on a visité Teotihuacan, qu'on a déjà passé 24 heures, 48 heures à Mexico, on est déjà au troisième, quatrième jour. On ne sait pas si on va aller voir Tula, si on va encore perdre un peu de temps autour de Mexico. Bon, bah, on pourrait peut-être prendre un avion. On va prendre un avion pour aller vers le sud. Ce qu'on aime bien visiter après un si gros morceau, c'est peut-être la zone du Yucatan, c'est-à-dire carrément aller à la pointe en se disant tiens, après je peux remonter gentiment. C'est peut-être pas une mauvaise idée parce que si on n'a pas le temps de visiter toute la zone Olmec, qui est donc la, celle qui a fondé les grandes civilisations du Mexique, la civilisation maya, c'est peut-être la plus parlante, c'est peut-être la plus facile à assimiler pour l'occidental. C'est celle qui représente un peu le côté grec du Mexique. C'est-à-dire, la sculpture est profonde, elle est bien marquée, elle est très esthétisée, très raffinée. L'architecture est souvent travaillée dans un calcaire jaune très beau. La ruine en soi est déjà très belle. Et puis, ce qui fascine complètement les gens chez les Mayas, c'est qu'on peut voir 10 ruines, 10 centres cérémoniels mayas, et il n'y en a pas un qui ressemble au précédent. C'est qu'il y a une diversité architecturale absolument fantastique. Alors, moi, je sais pas, je conseillerais, par exemple, d'arriver à Mérida, se laisser déjà un peu bercer par le charme d'une ville qui est à 12 mètres d'altitude, qui est à peu près au niveau des Caraïbes. N'y aller peut-être pas en plein été, parce que ça peut monter à 40 degrés quand même, 45 quand il fait bon. Mais en intersaison, même en saison des pluies, au moment où il pleut vraiment bien, alors là c'est effectivement juillet, août, septembre. Curieusement, ça anime un paysage, ça anime les cieux, enfin les ciels, et on obtient des images absolument éblouissantes. C'est-à-dire que d'une heure à l'autre, tout change. Alors là, on comprend un autre aspect au Yucatan de manière très forte. C'est valable aussi pour la jungle. Quand on redescend après le Yucatan, après avoir fait Uxmal, Chichen Itza, s'être baigné un peu à Cancun, avoir vu les falaises de Tulum face aux Caraïbes, justement face à cette mer vert émeraude, avec des palmiers qui commencent à disparaître. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais tous les palmiers, tous les cocotiers, plus exactement de l'ensemble des Caraïbes, disparaissent sous une petite bestiole qui les tue. Et c'est vrai que ces plages commencent à être un peu plus tristes, il faut le dire. Non, on mettra d'autres palmiers, il y en a d'autres. Hein. Tant pis pour la noix de coco. Mais en l'occurrence, il y a eu d'ailleurs aussi l'ouragan hein, qui a un peu touché la côte. Mais en redescendant en dessous du Yucatan, en dessous de ces savanes, il y a la jungle. Il y a la jungle de Palenque, il y a la jungle du Petén guatémaltèque. Alors ça, en saison des pluies, ça a quelque chose d'assez fabuleux. Les gens, normalement, un voyagiste vous dira qu'il faut y aller en février, qu'il faut y aller en mars, qu'il faut y aller en janvier, ce sont les mois secs. Ou même, on vous pousse des fois à y aller en mai ou en avril. Alors ça, c'est vraiment l'horreur. Parce que avril-mai, vous avez carrément des lieux à 45 ou 50 degrés, tout est absolument brûlé et jaune. Alors là, je préfère carrément la petite douche de l'après-midi entre 3 et 5, avec un orage incroyable et des nuages noirs qui courent dans le ciel à une allure démentielle. C'est-à-dire une animation véritable. Et tout à coup, la compréhension de ce qu'était l'agriculture, de ce qu'était l'importance des dieux qu'on a si souvent évoqué pour des paysans mayas. Alors bien sûr, tout ça peut se relier à l'astronomie, à la religion, à tout ce que on retrouve encore aujourd'hui chez ces paysans. C'est un lieu où il y a plein de magiciens, plein de sorciers, et qui, depuis le XVIe siècle, n'a pas vraiment perdu ni ses dialectes, ni sa langue, ni ses coutumes, ni ses civilisations. Ça, c'est le côté maya qu'on peut terminer en faisant un saut de puce ou en descendant gentiment par la route jusqu'à Palenque, qui restera certainement le deuxième point fort avec Uxmal de la région maya. Palenque, alors c'est un petit bijou. Palenque, ce sont des bâtiments très étranges, un peu comme des pagodes orientales posées sur des petites pyramides, sur un écran de verdure avec des arbres de 30 ou 40 mètres dans des collines totalement aménagées en jungle, comme cela. Et puis un palais central très important. Et surtout, alors, des hiéroglyphes, du stuc qui est modelé comme du plâtre de Paris, un tas de messages au premier et deuxième degré, et puis des histoires très longues qu'on peut raconter pendant des jours. La tombe, on descend, les escaliers, un immense sarcophage de 5 tonnes, un personnage couché dessus qui pénètre dans l'inframonde, qui raconte lui-même par ses hiéroglyphes qu'il est mort pour repousser le soleil le 24 décembre, parce que le 24 décembre, le monde entier allait être mangé, parce que la nuit était trop longue, alors il s'appelle le bouclier du soleil. Et au-delà, comme un sacrifié qui est capable de travailler dans l'inframonde, et il promet à tout son peuple et à sa dynastie qu'il sera capable de faire repartir le moteur de la lumière. Et puis on voit ça parce que tout à coup, le soleil arrive sur la pyramide et puis commence à en lécher une, et puis une deuxième, et puis une troisième, et puis le tout tombe petit à petit dans l'ombre. Et puis on voit que même la construction d'une ville entière a été faite simplement pour le sauvetage du soleil. Et curieusement, quand on sait que Palenque est à l'endroit de la mort du soleil, c'est-à-dire à l'ouest de la zone maya, on se dit tout à coup que ces légendes, elles sont vraies, que ça fonctionne. Ça, il faut peut-être pouvoir le vivre, le raconter sur place, parce qu'on peut aussi s'arrêter à regarder une pyramide, un hiéroglyphe ou un bout de stuc. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que tout cela, on commence à le savoir. Il y a des gens qui, depuis 20 ans, travaillent sans arrêt. On a des champollions par-ci, on a des découvreurs par-là. On est en train de faire des sauts extraordinairement rapides dans la connaissance de l'art précolombien. On a 50 ans de travail, c'est tout jeune. Mais le simple fait de tout à coup découvrir l'histoire d'un peuple, connaître le nom de ses dynasties, de ses souverains, je crois que c'est important aussi.
Junto al pie del muro donde se sentaba cuando me esperaba había un rosal enfermo que no daba flores pero que adornaba con verde. Fuerza de cuido le dio nueva vida, lo hizo renacer y el rosal enfermo pagó sus favores, cubriendo la tapia de amarillas. Flores de tristeza, algo de su ser.
Palenque, eh bien, il faut partir directement du côté de San Cristobal de las Casas. Ce sont deux points bien différents parce que partir de Palenque, ça veut dire être dans la jungle absolue. Ces contreforts de la Sierra Madre, c'est un peu le fond du décor du site archéologique. Et puis là, alors, la route commence à grimper. On s'arrêtera bien sûr à Aguasul. Aguasul, c'est une succession de cascades vertes et bleues, des de lagons intérieurs comme ça, merveilleux, où on va passer quand même quelques heures à se baigner. Et puis à manger du poisson, pourquoi pas. Et puis ensuite, il faut grimper jusqu'à San Cristobal en ayant traversé déjà une dizaine d'ethnies, Tzotzil, mais d'abord Tzeltal, des indigènes qui, eux, sont perdus dans ces hauts plateaux, ou plutôt ont été repoussés dans ces hauts plateaux. Et San Cristobal, c'est le stéréotype même de la petite capitale coloniale qui a été imposée comme un coup de poing au milieu de cette zone indienne, puisqu'il y a pratiquement, on l'a dit tout à l'heure, à peu près 900 000 Indiens dans cette partie de la Sierra Madre. Alors ça, je crois que ça peut être un peu le sujet fort de la prochaine fois, parce que je crois que les Chiapas, aujourd'hui, c'est la seule région du Mexique qui résume de manière complète tout ce qu'on peut trouver sur le plan indien. Et quand je dis tout ce qu'on peut trouver sur le plan indien, ça veut dire trouver des Indiens qui sont totalement adaptés au XXe siècle et qui tiennent à fonctionner dans un capitalisme qu'on est en train de leur enseigner et qu'ils acceptent, et puis d'autres Indiens qui sont capables de tuer, de mettre à mort, de chasser, de créer des guerres de religion, de se défendre à raison de plusieurs centaines de milliers contre un système qu'ils refusent au nom de leur passé, au nom de leur structure. Ils se prétendent catholiques et pourtant ils ont encore tout le système précolombien en main et ils le maintiennent comme tel et ils ont créé des frontières, non seulement visuelles, mais des frontières tangibles avec des croix, avec des sources, avec des choses très précises. Il y a un monde indien et un monde métis, il y a un Mexique et un autre Mexique. Et ça, je pense que c'est un sujet qui pourrait presque être une sorte de conclusion, puisqu'on se verra encore la semaine prochaine. Je dis bien voir, parce qu'on finit par voir des images de ce Mexique, et c'est vrai que c'est d'avoir un pays de couleur. Et on pourra peut-être terminer sur ce côté-là, c'est un peu le futur de ce qui nous plaît le plus lorsqu'on visite un autre pays, c'est-à-dire son exotisme, son folklore. Et là, sur un sens positif, je crois que le Mexique, et là je le dis sans aucune amertume vis-à-vis du gouvernement, mais au contraire, le Mexique ne s'est peut-être pas toujours rendu compte au cours de ces dernières années particulièrement. Dans les années 50, oui, mais à partir du développement des années 70, ne s'est peut-être pas rendu compte qu'il avait une des richesses les plus incroyables d'Amérique latine, il avait une diversité ethnique et il avait une multiplicité de langues, donc un passé, des racines et une forme, une conscience, une vertu nationale que peu de pays ont de façon si profonde.